France Culture. La curiosité sous toutes ses coutures. 17h-17h30, un mercredi sur deux, et le dimanche à 11h, sur les bonnes ondes de Radio Campus Angers.
Bonjour à tous et bienvenue dans Franche Culture, au menu tous les 15 jours, l'actualité culturelle de l'Anjou et plus si affinité. Au micro, nous sommes 7, 7 chroniqueurs à fouiller, fouiner, dégoter les perles culturelles de la région. 7 dont la seule motivation est la curiosité. Mais nous sommes maintenant en fait 8 puisque nous accueillons Émilie qui maintenant nous fait la technique. Merci à Émilie. Aujourd'hui, nous parlons de mosaïque. La très belle Maison Bleue Boulevard Foch à Angers va être rénovée. C'est l'occasion de découvrir cet art et le riche patrimoine local. Nous recevons une mosaïste pour en parler, Marie Conant. Mais tout de suite, nous quittons Angers pour une nouvelle exposition avec vous, Isabelle. Isabelle, bonjour.
Bonjour, nous allons aujourd'hui à la galerie Orchamps à Saint-Mathurin-sur-Loire pour en parler Rose Lecomte, photographe et professeur d'histoire de l'art et notre invitée.
C'est parti pour 30 minutes ensemble.
Franche Culture. Curiosité sous toutes ses coutures.
Rose Lecomte, bonjour.
Bonjour.
Résonance, c'est le titre de cette exposition, la rencontre de trois artistes et de trois regards autour d'une thématique commune, l'eau.
Tout à fait, oui.
Rose Lecomte, est-ce que vous pouvez nous faire les présentations?
Alors, nous sommes trois, en effet. Donc, Frédéric Germano, qui est écrivaine, Anne Moria, plasticienne, et moi-même, donc, photographe.
Et que présentez-vous à cette exposition?
Alors nous présentons beaucoup de choses diverses et variées, donc plusieurs disciplines, à savoir Anne Moria qui va présenter donc des gravures, des peintures, ce que l'on appelle l'art papier. Frédéric Germano qui a créé un recueil de poésie et qui va présenter des fragments donc de ses poésies et moi-même des photographies.
Alors, comment avez-vous travaillé? Est-ce que vous travaillez ensemble pour qu'il y ait une cohérence ou alors chacune séparément dans son coin?
Alors, en fait, déjà, comment est né le projet? C'est peut-être intéressant de savoir que nous sommes trois amis qui nous connaissons très bien et qui avons un profond respect du travail l'une de l'autre et un profond intérêt aussi. Et on a vu un jour, lors d'un repas, qu'il y avait une véritable synergie, une véritable cohérence entre nous, ce qui nous a donné envie de faire ce projet. Alors, nous n'avons pas calqué les unes sur les autres, hein. Nous n'avons pas travaillé exactement ensemble, c'est-à-dire que chacune suit sa ligne de conduite, on s'est rencontrés régulièrement, pour se maintenir un peu au courant de nos recherches, puisque nos recherches sont communes, mais il ne s'agissait pas de faire une illustration de l'une par rapport aux autres.
Donc il n'y a pas de travaux communs?
Il y a 4 triptyques quand même, qui vont être donc présentés, mais en fait il fallait que chacune d'entre nous garde son authenticité, garde son identité, et que de temps en temps les choses se rejoignent en effet.
Alors pourquoi résonance?
Pourquoi résonance? Parce que justement c'est la convergence de nos trois disciplines avec un regard commun, donc une résonance entre nous trois, et nous avons choisi comme thématique l'eau.
Alors pourquoi cette thématique de l'eau?
Pourquoi cette thématique? Parce que c'est une thématique qui nous est chère à toutes les trois. Alors Frédéric Germano, tout d'abord, en tant qu'écrivaine, est tout à fait fascinée par Bachelard, par les écrits de Bachelard. Anne Moria, dans son travail, travaille avec l'eau, puisque quand elle crée l'art papier, elle utilise du végétal, hein,
et des fibres végétales et de l'eau.
Voilà. Quant à moi, c'est mon thème de prédilection lorsque je réalise mes photos.
Alors justement, vous concernant, qu'évoquent tous ces reflets sur vos photos?
Alors les reflets, c'est quelque chose qui est évanescent, fugace, qui dure très peu de temps. Il faut être là à l'instant T, les capter dans l'immédiateté. Et je crois que c'est ça qui m'intéresse, c'est le fait que c'est tellement éphémère que bizarrement, ça ne renvoie pas à un miroir, mais ça renvoie à quelque chose de beaucoup plus profond. Ça permet de rendre sensible ce qui n'est pas visible à l'œil nu. C'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller en profondeur. Et je crois que ça, c'est finalement le dénominateur commun entre nous trois, c'est-à-dire cette envie d'aller chercher au-delà des apparences, au plus profond. C'est ça qui nous intéressait à toutes les trois.
Et vous m'avez parlé également d'une lecture poétique de Frédéric Germano.
Oui, oui. Frédéric Germano va lire ses poèmes in situ, hein, au milieu des œuvres, le dimanche 11 décembre, à partir de 17h.
Est-ce que vous avez prévu d'autres expositions ensemble ?
Oui, 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 tout à fait. Alors, nous avons déjà une exposition qui a été une commande. Alors, on a eu beaucoup de chance, on nous l'a commandée. Cette exposition a été commandée par les bouquineurs qui mettent en scène, qui font des lectures théâtralisées au milieu d'œuvres d'art. Et ils nous ont commandé donc cette exposition qui ne sera pas exactement la même parce que là, nous présentons des œuvres inédites. Et pour la deuxième exposition qui aura lieu à Montreuil-Juigné du 31 mars au 16 avril, ce seront d'autres œuvres et le thème sera légèrement différent puisque l'exposition s'intitulera « Mémoire et traces ».
L'occasion de se retrouver alors. Rose Lecomte, merci.
Merci beaucoup.
L'exposition Résonance donc aura lieu du 26 novembre au 11 décembre. C'est à la galerie Orchamps de Saint-Mathurin-sur-Loire, 10 levée du Roi René. Alors ça a lieu les vendredis et samedi après-midi de 14h30 à 18h30, le dimanche de 10h30 et de 10h30 à 12h30 pardon et de 14h30 à 18h30. Et avant de parler de mosaïque, une pause musicale. Marie, vous l'avez choisie, je vous laisse l'expliquer.
Oui, c'est le groupe Les Têtes en l'air et le morceau Django. Le groupe Têtes en l'air se produira le 27 novembre dans la salle capitulaire du lycée Joachim du Bellay, dans le cadre du festival Capriccio en Maine. C'est la 7e édition de ce festival qui aura lieu du 24 au 27 novembre.
Bebop, 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 bebop. Oh, nobody knows just how it started. Somebody blew it through a horn. Somebody played it on the fiddle. Somebody sang it and a song was born. Now it's the craze, the new sensation. It's the song that the bands all swing. Now it's the phrase that rocks the nation. Don't try to stop me cause I'm gonna sing. Eyes a muggin' boom. Wheeze a muggin' bang. Eyes a muggin' boom. Boobop de bop, boobop de ho.
La liste des lauréats du loto du patrimoine a été publiée le 29 août dernier. Pour le Maine-et-Loire, c'est la très belle Maison Bleue qui a été sélectionnée. La Maison Bleue, c'est cet immeuble art déco situé à l'angle de la rue d'Alsace et du boulevard Foch. Les remarquables mosaïques bleues qui couvrent la façade sont très fragilisées. Alors cette rénovation, c'est une très très bonne nouvelle. Les appels d'offres sont en cours. Le chantier débutera au printemps et cela nous a donné envie de nous pencher sur cet art, la mosaïque, encore très présent à Angers. Nous avons invité pour en parler Marie Conant, Marie Conant qui est mosaïste installée à Saint-Barthélemy. Marie, bonjour.
Bonjour.
Et pour animer cette émission, avec moi, Dominique Latron et Marie Brechteau, bonjour à vous.
Bonjour.
Bon, pour commencer, je me tourne vers notre architecte. Dominique, parlez-nous de cette fameuse Maison Bleue.
Eh bien, écoutez Cécile, impossible de parler de la Maison Bleue sans parler de son mosaïste, c'est Isidore Odorico, c'est lui qui a habillé ses façades. Isidore Odorico est né en 1893, il est mort en 1945, et il porte l'héritage des artisans de Frioul. Frioul, c'est une petite ville au nord-est de l'Italie, et ses hommes étaient venus prêter main forte sur le chantier de l'Opéra Garnier à Paris. Avant la Première Guerre mondiale, il va enrichir cet héritage technique de ses ancêtres par une culture artistique. Il fréquente pour cela l'école des Beaux-Arts de Rennes, dont il sort diplômé en 1913. Après la guerre, il reprend l'entreprise familiale avec son frère Vincent. C'est grâce à son sens des affaires, mais aussi grâce à son goût pour la mode, qu'il en fait l'une des plus importantes entreprises dans l'Ouest, avec des succursales dont celle fondée à Angers en 1932. Odorico est très inspiré par son temps, certes, c'est ce mouvement art déco dont vous avez parlé, en pleine effervescence depuis 1920, mais il développe aussi son propre style.
Et la Maison Bleue, alors, dans tout ça ?
Eh bien, la Maison Bleue, c'est vraiment la référence majeure de l'entreprise. Et cette vieille dame a bientôt 100 ans. Elle n'est plus tout à fait bleue et pimpante parce qu'elle est habillée depuis une vingtaine d'années par une toile en fibre de verre pour prévenir de toute chute de matériaux. Alors qu'à l'origine, en 1927, c'était une opération immobilière de grand standing, c'est un immeuble construit en béton armé, dessiné par l'architecte Jusserand, et pour répondre aux nouvelles exigences hygiénistes, il a concocté un ensemble de salles de bain de très grand confort, et elles sont elles-mêmes entièrement habillées de mosaïques, ainsi tout comme les parties d'ailleurs de communes de l'immeuble.
Marie Conant, justement, vous avez eu l'occasion, vous m'avez dit que vous aviez eu l'occasion de travailler dans la Maison Bleue et notamment en restauration sur les salles de bain. Alors tout d'abord, quelles sont les particularités graphiques d'Odorico ?
Bah, il était inspiré par son temps, c'est-à-dire que c'était les arts décoratifs. Donc les motifs étaient en lien avec la mouvance des arts décoratifs qui était assez géométrique. Enfin, il y a des spécificités à l'art décoratif. Sur les lettrages, sur...
Ouais, des lettrages, je crois que les lettres ne sont pas régulières dans les arts déco, c'est ça ? C'est
oui,
ce que vous m'aviez expliqué.
Oui, il y a toutes les barres horizontales ne sont pas au milieu, elles sont plutôt en haut ou en bas.
Oui.
Quand il y a des doublements de lettres, il y a une petite lettre et une grande lettre. Ça, c'est des spécificités reconnaissables dans le graphisme quand on fait des écritures en art décoratif.
Et chez Odorico, j'avais cru comprendre qu'il y avait beaucoup de cercles aussi.
Oui, alors il a démarré ce travail avec les cercles pour une boutique à Rennes, qui était une boutique de fleuristes. Il avait mis en place sur les sols des cercles qui s'enlaçaient comme ça. C'était pour mettre en avant les pots de fleurs. Et puis, cette idée-là intéressée, il l'a beaucoup déclinée après dans les sols des boutiques, un peu partout. À Rennes, il y en a un certain nombre. À Angers, on a un bar PMU à côté de l'église de la Madeleine, qui a un sol comme ça, en cercle, qui a été fait par Odorico.
Fait par Odorico aussi.
Donc, il a développé son propre style à l'intérieur des arts déco.
Oui, c'est ça.
On peut le reconnaître.
Oui, il était très... Il avait fait, comme vous l'avez dit, comme l'a dit Dominique, il avait fait des études aux Beaux-Arts. Donc il avait un certain talent graphique, un grand talent aussi d'assemblage des couleurs. Il a fait c'est assez spécifique à son travail.
Pour en revenir à la Maison Bleue, est-ce qu'il reste beaucoup d'éléments d'Odorico dans les appartements là actuellement ?
Alors, la Maison Bleue a été construite elle a été commanditée par un homme d'affaires qui possédait l'hôtel d'Anjou qui est en face, parce qu'Odorico avait fait travailler, l'homme d'affaires avait fait travailler Odorico pour décorer les salons de cet hôtel, et l'idée d'une collaboration sur le projet immobilier de la Maison Bleue est venue à ce moment-là. Il n'était pas prévu au départ que ce soit une maison en mosaïque. Voilà. Et c'est cette collaboration qui a fait évoluer le projet. Après, les appartements qui étaient vendus à des propriétaires privés étaient livrés nus, sans décoration. Mais la mode à l'époque était aux arts décoratifs et en particulier à la mosaïque. Donc les propriétaires ont fait appel tous...
Ils ont fait faire leur salle de bain.
Ils ont fait appel à Odorico pour faire les sols, les salles de bain, etc.
Et alors, est-ce qu'il en reste aujourd'hui des salles de bain
Alors, il y a un seul appartement qui est classé, qui était l'appartement que s'était réservé le propriétaire du projet immobilier, qu'il avait fait entièrement décorer par Odorico. Donc cet appartement est très connu parce qu'il est une référence. On le voit en photo partout.
Donc là, il est resté.
Celui-là, il est
un élément d'origine.
Voilà, parce qu'il était classé. Tous les communs aussi, les halls d'entrée, les escaliers. Et puis après, dans chaque appartement, les autres appartements n'étaient pas classés. Et comme les modes décoratifs changent, les propriétaires, au gré des années, ont pour certains, pour un nombre assez important, modifié les sols en mettant des dalles modernes sur les mosaïques ou en enlevant les mosaïques. Donc il ne reste pas tant que ça de mosaïques dans les appartements. Ça dépend des propriétaires, en fait.
Alors, quand on rénove des mosaïques anciennes, comment est-ce que vous retrouvez des matériaux identiques ?
C'est la plus grande difficulté dans un exercice de restauration, c'est de retrouver les matériaux anciens qui ne sont plus fabriqués. Alors, il y a toujours...
Comment vous faites ?
Eh bien, il y a toujours des anciens stocks qui circulent. Je ne peux pas vous dire comment,
ouais.
Par miracle. Ouais. Et donc, faut tomber dessus. On a nous-mêmes dans nos ateliers un certain nombre de stocks. On récupère quand on fait des chantiers. On récupère aussi un peu de matériaux anciens que parfois on peut réutiliser, mais ça, c'est assez difficile. Voilà, c'est un travail très compliqué.
Il y a eu sur cet immeuble, dans les années précédentes, les années 70 notamment, un certain nombre de restaurations, de rénovations. Elles n'ont pas toutes respecté l'œuvre originelle, notamment pour les balcons, qui aujourd'hui sont habillés de céramique industrielle et qui ne vont pas du tout dans le sens de l'habillage qui avait été prévu à l'origine par Odorico. On espère tous, bien sûr, que ces réparations seront démontées. Est-ce que sur des sujets comme ça, vous avez une propre doctrine ? Est-ce qu'on doit conserver les restaurations intérieures ou est-ce qu'on doit les effacer au profit de remise en place de savoir-faire des anciens mosaïstes du début du XXe siècle ?
Alors, quand on travaille sur une œuvre qui est classée monument historique, on a un débat avec les conservateurs des monuments historiques sur la conservation ou non. En général, on conserve les traces du passé, mais là, vous me parlez d'une restauration intermédiaire qui n'a pas été faite dans les règles
de
l'art.
Bien
donc
sûr.
Ça, effectivement, on peut revenir là-dessus. Moi-même, je l'ai fait sur une boutique à Rennes où il y avait une... comment dire, il y avait des lacunes sur le sol et ça avait été complété de façon assez aléatoire et pas très harmonieuse. Donc j'ai refait ces parties-là en essayant d'être au plus près du travail d'Odorico d'origine.
Donc, votre souhait, c'est bien de revenir à l'état d'origine, celui des années 27-29, pour mettre en valeur l'ensemble architectural.
Oui, ça me paraît cohérent sur la Maison Bleue, oui.
Et alors, comment est-ce qu'on procède techniquement pour restaurer ces grands panneaux de mosaïque ? Est-ce qu'on va procéder à leur dépose partielle, totale, ou est-ce qu'on intervient pour recoller cet ensemble sur la façade par des injections ?
Alors, les deux, j'allais dire.
Les deux. Bon.
En fait, on traque les cavités qui se sont installées, parce qu'il y a des décollements en fait, de la mosaïque avec le support qui est le mur. Donc, on traque ces cavités dans lesquelles on injecte un produit qui permet de resolidariser les mosaïques au support. Et puis après, y a des parties où, de toute façon, les mosaïques sont déjà tombées.
Oui.
Donc,
oui.
Il faut refaire ces parties-là. Il y a aussi, pour être monté sur des balcons récemment, beaucoup d'infiltration. Notamment, on a des petits... Sur les appartements qui sont à hauteur, qui ont des balcons, on a des petits chapeaux au-dessus des balcons. Ces petits chapeaux sont pleins de stalactites,
oui,
de calcaire.
Exactement.
Qui sont liés à ces infiltrations.
Oui. Alors ça, c'est très difficile à enlever, j'imagine, parce que c'est un matériau qui durcit avec le temps.
Oui, alors il y a tout un travail de nettoyage, et puis après,
oui,
de voir en dessous...
Est-ce que vous préconisez des habillages justement de ces saillies, les balcons ou les appuis de fenêtres par des éléments métalliques, zinc ou plomb par exemple, pour protéger définitivement ces mosaïques ? C'est pas ce qu'on faisait à l'époque, mais est-ce que ça devient nécessaire pour conserver l'ouvrage restauré le plus longtemps possible ?
Moi, je suis pas très partante.
Elle réfléchit.
Vous préférez que l'ouvrage s'abîme à nouveau ?
Oui. Je préfère.
Lentement,
je préfère.
Le plus lentement possible. Sans... Est-ce qu'il y a des produits, par exemple, qui permettraient de protéger des vernis, des...
Qui soit moins visible
que le zinc ou le cuivre.
Vous parliez d'une toile tout à l'heure qui a été posée effectivement il y a longtemps. Sur certaines parties, ce n'est pas une toile qui a été posée, mais une sorte de vernis aussi. Tout n'est pas entoilé. Il y a des parties avec une sorte de vernis dessus qu'aujourd'hui, il est prévu qu'on enlève.
Bien sûr. Voilà. Parce que ce vernis finit par blanchir et pas donc force. Altérer les teintes et l'éclat de ces mosaïques.
Alors non, ce n'est pas... Pour moi, ce n'est pas ça le souci. Il n'est pas spécialement... Enfin, celui que j'ai vu, en tout cas, il n'est pas spécialement blanchi. Mais il n'y a pas une nécessité à mettre un apprêt ou un vernis ou une protection sur une mosaïque. Ce sont des matériaux qui sont faits pour être à l'extérieur. Il n'y a aucun problème pour l'exposition.
Ils sont très exposés aux intempéries, au soleil,
oui,
à la pluie.
Oui, mais ce sont des matériaux qui sont faits pour tenir aux intempéries.
Ouais. Il faut que les joints soient parfaitement étanches.
Oui.
Bien sûr.
C'est l'essentiel. Ce chantier, à votre avis, combien de temps, combien de personnes? Ça semble titanesque.
Alors, ce n'est pas mon avis, c'est très...
C'est très codifié, c'est préparé.
C'est prévu. Il y a deux tranches dans le chantier, parce qu'il y a une façade qui est plus petite que l'autre. Donc, il y a une tranche qui va comprendre la petite façade et le pignon, et une deuxième tranche qui va comprendre la deuxième façade. Il est prévu 9 mois sur une des tranches et 6 mois sur l'autre. Donc, en gros, un an et demi de travaux sur l'ensemble de la façade.
Un an et demi de travaux. Bon, avant de revoir cette façade aussi resplendissante qu'elle n'a été. Rapidement, pour terminer, parce qu'on a parlé de Dorico un petit peu, il y a d'autres œuvres de Dorico à Angers. Où peut-on les voir?
Oui, les sites d'intervention de Dorico sur Angers et sur l'Anjou, d'une manière générale, sont assez variés. Ils sont aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur des bâtiments. Alors, si on doit faire un petit catalogue au chapitre des établissements publics, moi, je retiendrai d'abord l'ancienne école d'aviation. Ça, c'est cet immeuble qui était à la limite entre Angers et Avrier. Cet immeuble qui est devenu maison de l'architecture, c'est sûrement aussi une des très grandes références de Dorico. Bien sûr, on vient d'en parler, l'hôtel d'Anjou, boulevard Foch. Mais aussi dans les établissements publics, les arts et métiers, l'école des arts et métiers dans la Doutre. Alors au chapitre des maisons particulières, la piscine du château de Marçon près de Saumur, ça je vous conseille d'aller la voir, elle est ouverte tous les ans aux journées du patrimoine. C'est un petit château à une dizaine de kilomètres au sud de Saumur. Et puis une maison rue des Lutins peut-être qui appartient aussi au catalogue de Dorico, on n'en est pas complètement sûr. En tout cas, au chapitre des commerces, on retiendra, au-delà de celui dont on vient de parler, l'herboristerie de la rue Saint-Aubin.
Oui, l'herboristerie de la rue Saint-Aubin, dont vous m'aviez dit que le sol était aussi en mosaïque, mais qu'il a été recouvert.
Oui, il est recouvert actuellement par un parquet flottant.
Donc il est protégé.
Voilà, d'où l'intérêt, c'est qu'un parquet flottant, ça s'enlève.
Oui.
Tant mieux, parce que, de mon point de vue, c'est ce qu'il y a de plus intéressant dans ce commerce. Je ne suis pas très fan de la décoration de la façade, mais par contre, le sol, je le trouve très beau.
Oui, donc on espère qu'on le reverra un jour. Marie Conan, je voudrais qu'on passe au métier de mosaïste. Alors, j'ai compris en discutant avec vous qu'il y avait quand même plein de facettes, puisqu'il y a la restauration, il y a la formation, vous animez des ateliers, il y a la création. Tout d'abord, je voudrais qu'on commence, comment se forme-t-on? Comment devient-on mosaïste?
Alors en France, c'est un petit peu compliqué parce qu'il n'y a pas d'école de mosaïste. Il y a un diplôme Bac plus 2 pour les gens qui ont moins de 25 ans dans un lycée parisien qui s'appelle Fresque et Mosaïque. Mais la mosaïque est plutôt un module dans une formation de fresquiste, laqueur, etc. Et puis, bah sinon, il y a vous parliez tout à l'heure du Frioul. Il y a une école à Spilimbergo, en Italie, dans le Frioul, qui est très renommée. C'est une école internationale dont les études se font en 3 ans. En Europe, c'est la référence. Et puis sinon, pour les mosaïstes, ce qui est mon cas, moi, c'est une reconversion professionnelle. Donc, je n'avais pas la possibilité de partir en Italie. J'avais une famille, je n'allais pas m'absenter pendant 3 ans. Donc, en fait, on se forme dans les ateliers des mosaïstes français.
C'est du compagnonnage, en fait.
C'est ça.
Oui.
Il n'y a pas de formation reconnue en France, en fait, d'État. Mmh.
Vous, votre travail, vous avez un travail de création, ça consiste en quoi?
Ça consiste en quoi? Eh bien, je réponds d'abord à des demandes de clients. pour faire des chantiers décoratifs.
Ouais. Vous avez des chantiers publics ou des chantiers chez les particuliers ?
Alors, pour la décoration, j'ai des chantiers chez les particuliers. Pour la restauration, j'ai des chantiers publics.
Ouais. Ah oui, c'est encore...
Vous avez un projet de création actuellement pour un commerce ?
Oui. Alors ça, c'est de la création. C'est donc pour un
particulier.
Pour un particulier. Enfin, en tout cas, c'est une entreprise.
Ouais.
Il s'agit d'une enseigne pour un bar à vin qui va ouvrir bientôt.
Ouais. Chouette.
Qui sera situé où ?
Alors, qui sera situé en bas de la rue de la Chalouère, à côté de la place Ney.
Donc,
très Angevin, alors.
Voilà. Ouais, il faudra qu'on lève les yeux pour voir la magnifique mosaïque.
Un bar qui va s'appeler Chaussette.
Et d'ailleurs, en fait, c'est quoi exactement, si on doit définir la mosaïque ?
Mais qu'est-ce qui définit la mosaïque ? Est-ce que c'est une technique, un matériau ?
Alors, ce n'est pas une technique, parce que c'est un métier dans lequel il y a de multiples techniques. C'est, pour moi, l'assemblage de petits éléments, qu'ils soient fragmentés ou non.
Donc, c'est un rendu final qui fait qu'on dit mosaïque, quel que soit l'élément utilisé
techniques. Parce qu'aujourd'hui, la mosaïque est rentrée dans l'art contemporain, au même titre que les autres disciplines. Et donc, dans ce cadre-là, on peut utiliser n'importe quel matériau, jouer avec...
Donc, on peut très bien avoir des mosaïques de métal, avec assemblage de métaux, de couleurs et de natures différentes, de façon à créer un panneau animé.
Oui, bien sûr. Moi-même, j'utilise des éléments métalliques dans les mosaïques que je fais par moment.
Que vous découpez vous-même, ou ce sont des éléments que vous assemblez et qui sont manufacturés ?
Alors, ce sont des éléments soit manufacturés, par exemple, je travaille avec de la quincaillerie, soit des éléments que je récupère chez des serruriers métalliers dans les ateliers, quand ils font des découpes, des petites pastilles, des choses comme ça en acier.
Est-ce que vous travaillez encore selon la méthode la plus ancienne, qui consistait à installer les petits fragments sur un papier craft à l'envers, et puis ensuite de les plaquer sur un support? Ou est-ce que maintenant vous travaillez toujours en positif, c'est-à-dire directement en assemblant les petits éléments sur le mur les uns après les autres ?
Alors, cette méthode existe toujours, elle a ses avantages, mais je l'utilise très peu parce que c'est toujours plus facile de travailler, au lieu de travailler à l'aveugle, de travailler, parce que quand on travaille à l'envers, si les couleurs sont que sur une face, on travaille à l'aveugle. Donc c'est toujours plus simple de travailler à vue sur le rendu du travail. Donc il existe de multiples méthodes aujourd'hui, mais pour travailler à l'endroit, en fonction de ce qu'on va faire.
Donc vous travaillez avec des mortiers à prise rapide, sur lesquels vous venez placer les petits éléments ?
Non, pas du tout.
Non, pas du tout.
Je travaille, j'ai par exemple, sur le chantier que je suis en train de faire, je travaille sur un scotch double face, je pose mes éléments sur le scotch double face et ensuite, quand tout est positionné, je fixe l'ensemble des éléments avec un scotch fort en surface de ma mosaïque. Je retourne mon travail, j'enlève le scotch double face et éventuellement le carton ou le dessin qui est en dessous. Et je viens ensuite retourner mon travail qui est scotché sur un lit de colle. D'accord. De mortier.
Donc
ça,
c'est plutôt la méthode traditionnelle.
Oui, on veut.
Puisque vous retournez
Si on veut, mais je travaille à l'endroit.
D'accord.
Je vois ce
mais
que je fais par rapport au craft qui est opaque.
Non, le craft, c'est effectivement plus facile quand on a un motif géométrique et répétitif. Ça, on le comprend assez bien. Mais quand on doit avoir une composition moins mathématique, on comprend qu'on ait besoin de travailler de visu, en direct.
Et en plus, quand on coupe un matériel... La coupe n'est pas toujours franche et verticale. Quelquefois, l'arrière du matériau n'est pas très beau dans la coupe, je veux dire. Donc, c'est toujours mieux de travailler avec la partie qu'on va voir. C'est toujours plus simple.
Ce qui me surprend le plus dans les mosaïques de Monsieur Odorico, c'est la finesse et l'étroitesse des joints. Et vraiment, les éléments paraissent... jointif.
Alors en fait, il n'y avait pas de joint à l'époque.
C'est ça, exactement.
C'est-à-dire qu'en fait, tout était collé à la barbotine. Et ce qu'on considère comme un joint, c'était les remontées de barbotine.
C'est ça. C'est lié à l'irrégularité du petit fragment.
Il n'y avait pas un joint. Je veux dire, aujourd'hui, on a une colle et un joint qui sont deux produits différents. En fait, on collait à la barbotine et le joint était fait à la barbotine. Enfin, c'était la barbotine aussi, mais effectivement, il y avait très peu de joints, ce qui est une grosse difficulté quand on restaure. Ouais. parce que quand on doit enlever un élément qui est abîmé, sans abîmer les éléments autour, c'est très compliqué quand il n'y a pas d'écart entre les pièces.
Bon, j'ai l'impression qu'on pourrait continuer à parler des heures, et malheureusement, on est à la radio et on a un timing, je voulais juste qu'on évoque une création très récente, c'est la mosaïque de Mosca de Selva.
Alors, une œuvre récente, elle a été inaugurée en 2018. Il s'agit de l'oratoire Saint-Maurille, une toute petite chapelle octogonale nichée au sein d'un bâtiment 19e, la faculté de théologie de l'UCO à Angers. Cet oratoire, à l'origine un peu tristounet, la doyenne de la faculté de théologie de l'époque en 2008, a donné carte blanche à la mosaïste Mosca de Selva pour en faire un lieu propice à la méditation. Il a fallu 10 ans pour que la métamorphose opère. 10 ans de création, 300 000 tesselles, petit carré de mosaïque d'un centimètre sur un centimètre, 300 000, car si le lieu est petit, il y avait 70 mètres carrés de mur à recouvrir. Ces tesselles essentiellement de couleur bleue, mais pas un seul bleu, 150 nuances de bleu, pour évoquer quoi ? La Méditerranée. De l'Orient à l'Occident. Les tesselles ont été taillées et assemblées par l'artiste, un à un, sur place. Une tesselle, ou un tessel, je ne sais plus. Bon, alors, si la spécialiste ne sait
ça
pas non plus...
Ça fait débat. Moi, je dis une tesselle, mais je crois qu'on peut dire un tessel aussi.
Voilà, donc ils ont été assemblés, un à un, sur place par l'artiste. Mosca de Selva est d'origine italienne. Elle travaille à Chalonne, où elle a fondé l'Académie artistique de Loire. Et durant ses 10 ans de création de l'oratoire Saint-Maurille, elle n'a pas été seule. Il y a eu un vitrailliste, une enlumineuse, d'autres mosaïstes, dont vous, Marie Conant. Alors, vous avez participé aussi. Dites-nous un peu.
J'ai travaillé sur les plaintes.
Qui sont dorées, elles ?
Oui, alors la particularité des plaintes, c'est que ce sont des écritures, des écritures effectivement dorées, qui correspondent aux donateurs, aux gens qui ont participé financièrement à cette chapelle.
Oui, ça a été financé entièrement par des dons privés, 45 000 euros sur 10 ans, pour acheter le matériel.
Et donc, comme c'était un... Il se trouve que Mosca était malade, et donc le travail se faisait sur place, et les plaintes, évidemment, c'est au ras du sol, donc c'était une activité assez pénible qu'elle ne pouvait pas faire. Donc elle a fait appel à des mosaïstes plus jeunes et en meilleure santé pour travailler sur ces parties-là.
Un travail commun, le rendu est absolument magnifique, c'est un lieu propice à la méditation, qui est plein de joie, qui dégage beaucoup d'énergie en étant méditatif.
Voilà, Marie Conant, merci beaucoup. On n'a pas eu le temps de parler de tout. Vous avez aussi une activité d'objets décoratifs. Vous êtes multifacette, toujours dans la mosaïque. Je rappelle qu'on peut trouver tous les renseignements sur votre travail sur votre site internet.
Oui, je fais des portes ouvertes tous les week-ends à partir de ce week-end à mon atelier. Si vous voulez venir découvrir ma gamme d'objets décoratifs, c'est l'occasion de faire des cadeaux pour les fêtes de fin d'année.
C'est à Saint-Barthélemy d'Anjou et on pourra en plus aller admirer le café quand la belle affiche, un petit peu art déco d'ailleurs, d'après les lettres, sera mise en place. Merci beaucoup d'être venu nous faire découvrir cet art contemporain qui reste vivant. C'est la fin de ce Franche Culture, 30 minutes de culture tous azimuts en Anjou. Merci à vous, chers auditeurs de Radio Campus, pour votre écoute. Retrouvez-nous pour la rediffusion de l'émission le dimanche prochain à 11h30. Et surtout, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à partager notre podcast ou à nous liker sur les réseaux sociaux. Très belle semaine à tous.
Une émission à retrouver sur le www.radiocampusangers.com.